Terminons donc normalement entre mai et décembre ce cycle donc sur plus vite expérience des accélérations et nous le reprenons, nous enjambons l'été et nous le reprenons aujourd'hui avec Jean-Claude Penrat donc sur l'anthropologue face au temps accéléré, pratique de terrain et expérience de la distance. Nous devions ensuite avoir d'ici la fin de l'année, c'est la fin de l'année 2013, la fin de l'année civile, deux autres séances. L'une le 24 octobre avec Cyril Lemieux et l'autre le 19 décembre avec Françoise Savan. Et malheureusement, celle de Cyril Lemieux va devoir être annulée le 24 octobre parce que voilà, c'était un programme prévu longtemps à l'avance et des obstacles se sont présentés. Donc nous sauterons de la séance de Jean-Claude à l'instant, nous sauterons donc à celle du mois de décembre avec Françoise Savan qui clôturera ce cycle et puis à partir du début 2014. Commencera ce nouveau cycle sur le politique et la politisation, l'expérience du politique, qui va nous retenir donc pour un. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Alors les 8-9, oui, nous avons un prochain 8-9 donc, qui est ici. Vous avez le papier. Donc nous recevons Avner Ben Amos, donc israélien, grand spécialiste de la mémoire, et qui nous présente son dernier livre, donc traduction en français donc, à l'école des études, Le Vif saisit le mort, funérailles, politique et mémoire en France, 1789-1996. Voilà, très beau, c'est un grand historien et très connu. Et Emmanuel Laurentin, donc, cette fois encore, donc, animera l'heure d'échange. Avec Avner Ben Amos.
Tu voulais poser une question? On va l'enregistrer en vidéo pour faire un clip assez court qu'on mettra sur le site de l'école d'ailleurs.
Ah oui, très bien.
On va essayer de faire ça avec les éditions d'école pour rendre visible à chaque fois qu'un livre sort.
Excellent.
Avec les éditions.
Bon, eh bien, on remercie Elise une fois de plus d'assurer les images, eh bien, on va maintenant écouter Jean-Claude sur le format habituel, c'est-à-dire qu'il va nous parler, je pense.
Alors,
c'est une minute, et puis ensuite, voilà, discussion, et puis un verre de champagne nous attendra pour nous délasser à la fin. Voilà, vas-y.
Eh bien, je vous remercie d'être venu, je te remercie Déborah, je te remercie Stéphane d'organiser ces rencontres. Alors, sur le thème que je vous propose, je voudrais d'abord faire une présentation qui entrera, en quelque sorte, dans mon exposé. Puisque, effectivement, à l'École des hautes études, on a la possibilité de faire une carrière de chercheur et d'enseignant tout en ayant un parcours qui n'est pas forcément un parcours académique classique. Donc, en vous donnant quelques éléments de ma biographie, je vais me situer tout de suite dans la problématique des temps accélérés ou des temps qui se modifient. Alors, j'ai fait des études dans les années 60 à la Sorbonne en ethnologie, à l'époque de Leroy Bourhan, de Bastide, à une époque assez prestigieuse. Et puis, parce que j'étais comme ça, j'ai décidé un jour de gagner ma vie et j'ai passé des tests à la Compagnie internationale pour l'informatique, qui était issue de Bulle. Et j'étais recruté comme ingénieur, ils m'ont formé pendant 6 mois. Et là, j'ai été au contact avec des pays autres, la Hongrie, la Syrie, le Liban, etc. Et en fait, ma formation d'anthropologue les a intéressés à ce moment-là. Donc, il y a eu un cheminement pendant quelques années comme ça, qui m'ont conduit après à travailler pour une boîte d'exportation. J'ai vendu des ronds à béton, j'ai vendu des poutrelles, etc., en Algérie, une usine en Syrie, bon, etc. Et je suis revenu à l'anthropologie en 1978, où j'ai fréquenté Balandier, Maxime Rodinson. Et là, donc, j'ai essayé de trouver ma place après ce parcours qui n'était pas classique dans l'université. Et j'ai choisi comme terrain de recherche en anthropologie, à un moment où il y avait justement cette lutte entre le structuralisme et une autre anthropologie plus dynamique. Le structuralisme qui cherchait à établir des modèles, à reconnaître des structures, donc en quelque sorte à nier le temps pour une bonne part. Et c'est là où se situe justement dans notre problématique. Et Georges Balandier, lui, par contre, essayait de montrer que l'histoire était toujours présente et qu'on n'arrivait pas à figer et à donner un rendu des sociétés, notamment africaines, en considérant que c'était des sociétés sans histoire, donc hors du temps, qu'on pouvait décrire une fois pour toutes et conserver dans des bocaux. Donc j'ai choisi un terrain qui était à Mombasa, au Kenya, en 1980, c'est mon premier terrain. Et mon sujet était alors le commerce par boutre dans l'océan Indien. Donc j'étais parti pour trouver ces bateaux qui traversaient l'océan et qui faisaient du commerce depuis des centaines d'années, et peut-être même 2000 ans avant Jésus-Christ déjà, pour aller transporter jusqu'à Manchart et Lara du bois pour construire les temples de Sumer. Et il se trouve que là, il y a eu une accélération. Si ce commerce a duré pendant pas mal de temps, pas mal de siècles, au moment où je suis arrivé, 80, c'est un an après la révolution iranienne. Or, ces bateaux qui venaient du Golfe, de la péninsule arabique, de l'Iran, du sous-continent indien, eh bien, cette année-là, ils ne sont pas tellement venus puisqu'ils faisaient du trafic d'armes et de la contrebande dans le Golfe, aussitôt après la révolution iranienne. Et là, j'ai été pris dans quelque chose que je n'avais pas, bien sûr, prévu en allant sur mon terrain, puisque ça durait depuis si longtemps, je pensais que j'allais trouver ces choses-là. Et là, d'un seul coup, il y a eu un accélérateur et les choses se sont transformées. Alors, en fréquentant Mombasa, bien sûr, et c'est là justement l'aptitude de l'anthropologue, c'est que lorsque on ne trouve pas ce qu'on cherche, eh bien, on essaie de trouver autre chose. Et j'ai reconnu à Mombasa une société qui était un peu du même ordre que ce que j'avais connu à Beyrouth, à Damas, c'est-à-dire des sociétés plurielles. Il y avait des gens de confessions différentes, des gens qui venaient de pays différents, des Asiatiques, c'est-à-dire du sous-continent indien, des Arabes, des Africains, des Européens, des gens qui venaient un peu partout et qui vivaient ensemble et qui formaient donc un tissu social, surtout urbain, à travers un découpage pluriel. Et donc, eh ben, j'ai réorienté peu à peu donc, mon terrain vers ces questions de société plurielle. Et là, c'est où mon jardin secret du Moyen-Orient m'a en quelque sorte servi pour approcher assez vite cet aspect de ces sociétés-là. Ces sociétés plurielles sont toujours des sociétés mouvantes, parce que c'est lié à ces migrations, des migrations qui sont liées au commerce, à des persécutions, les gens voyagent. Si des Arabes sont arrivés il y a quelques siècles sur la côte africaine, c'est que dans le golfe persique, il y avait eu des événements il y a 1000 ans qui ont fait qu'il y a eu des mouvements religieux et politiques, ont fait que des gens ont été chassés, ont été persécutés, et donc eh ben, ils se sont dispersés le long des routes commerciales, et comme ça, ils se sont installés. Donc ces accélérations, elles existaient déjà avant. Hein. On a toujours tendance à en parler aujourd'hui, mais il y a eu dans l'histoire des accélérations fortes et dramatiques pour des populations qui ont fait que eh bien, ces gens se sont dispersés et on s'ancrant sur certains paysages, eh bien, on formait des sociétés particulières en discussion avec des sociétés qui habitaient localement. Alors bien sûr, je ne parle pas d'un point de vue éthique, là, parce que la traite des esclaves a été l'un de ces aspects-là. C'est-à-dire ces gens ont pu justement vendre des esclaves comme ils vendaient l'ivoire, comme ils vendaient d'autres denrées, à partir du moment où ils se sont installés. En tout cas, se sont formées donc des sociétés plurielles sur la côte est-africaine. J'ai diversifié mon terrain, j'ai remonté la côte kenyane, je suis allé à Malindi, je suis allé à Lamu pour essayer de faire des comparaisons. Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont paru très sympathiques, qui sont des Ismaéliens, donc les partisans de l'Aga Khan. Et en fait, ceux-là, et aussi ceux qu'on appelle les Bohora, qui sont un autre groupe ismaélien qui fait partie du chiisme. Et je me suis rendu compte que déjà à l'époque, même si on ne parlait pas en ces termes-là, ils étaient dans une certaine mondialisation. Vous savez sans doute, l'Aga Khan est un grand homme d'affaires et que son gouvernement international, il est situé à côté de Chantilly, à Aiglemont, c'est là où il y a en quelque sorte son gouvernement, et qu'à partir de cette résidence-là, les émissaires envoyés d'un peu partout, des communautés ismaéliennes en Afghanistan, au Canada, en France, en Afrique de l'Est, en Inde, etc., eh bien, ils mettaient en commun des biens, des finances, et ces finances étaient investies dans l'industrie mondiale, dans les assurances, dans les banques, etc., dans le commerce, dans les hôtels, et qu'une partie de ces revenus-là revenait à la communauté pour faire que cette communauté s'élève dans l'éducation, s'élève par les emplois qu'elle occupe dans les différents pays où elle est. Et c'est ce qui m'a intéressé, et j'ai pensé que je pouvais mener un travail sur ce monde chiite-là, à ce moment-là. Et effectivement, j'ai eu au début quelques avancées, et puis très rapidement, je me suis rendu compte que tout s'arrêtait au sourire, et que jamais j'allais au-delà, parce que c'est une société qui vit dans le secret. Donc son histoire est une histoire de persécution à travers l'histoire musulmane. Ça a commencé au Caire, quand ils étaient au pouvoir, dans l'Empire Fatimide, jusqu'en Iran. Ce sont des gens qui ont toujours été en minorité, un peu comme les Alaouites en Syrie aujourd'hui, qui étaient donc des gens qui risquaient de disparaître, Donc ils ont une culture du secret, une culture du caché, et c'est ce que j'ai rencontré là. Donc je me suis trouvé un peu bloqué par ces rencontres-là, et j'ai décidé donc de réorienter là aussi, en fonction de ce terrain, ma recherche vers d'autres communautés musulmanes qui sont les confréries soufis, puisqu'elles existaient dans ce tissu-là, dans ce tissu pluriel. Et ce qui m'intéressait, c'est que ces confréries soufis sont aussi établies sur toute une série de pays. Par exemple, je vous donne des noms comme ça, mais je ne vais pas détailler, la Qadiriyya ou la Chazibiyya existent en Irak, existent sur la péninsule arabique, existent en Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, et existent bien sûr en Afrique. Et ce sont ces gens-là que j'ai approchés, et je les ai approchés en allant à Zanzibar cette fois-ci, puisque à ce moment-là, début des années 90, il me paraissait plus facile de travailler à Zanzibar puisque les gens étaient plus disponibles, étaient plus chaleureux, et que donc j'avais l'impression que je pouvais donc m'insérer plus facilement dans les communautés qui pratiquaient ces rites soufis. Alors là, justement, le temps et la durée jouent un rôle aussi. C'est que Zanzibar, au début des années 90, c'était une société figée depuis 1964, où il y avait eu un coup d'État après l'indépendance du sultanat Zanzibar, où il y a eu des massacres. On a massacré les Arabes, on a massacré les Comoriens qui étaient assimilés aux Arabes, et on a installé un pouvoir politique, un parti unique, qui a gouverné en fermant complètement l'île pendant pas mal d'années, même si cette île était rattachée au Tanganyika pour devenir la Tanzanie. C'était un lieu très fermé où presque personne n'allait, et ça se situait aussi dans ce partage entre l'Est et l'Ouest à l'époque de la guerre froide. Donc il y a toute une série d'éléments internationaux qui ont fait que cette société a survécu plus ou moins bien en appauvrissant des traditions, notamment des traditions religieuses, mais qui n'évoluaient pas pendant quelque temps. Donc là, on a le contraire d'une accélération, on a une sorte d'accalmie et en même temps un appauvrissement des connaissances que pouvait transmettre la société, qu'elle soit religieuse ou autre. Et je suis arrivé à ce moment-là et je me suis fait prendre un peu au piège justement de cette immobilité en pensant que ces cérémonies soufis, eh bien, elles étaient immuables et qu'elles se reproduisaient, ce qui est en partie vrai. Ce sont des rites qui existent depuis très longtemps et qu'on reproduit avec des textes fondamentaux, qu'on chante, etc. Et il m'a paru intéressant à ce moment-là, eh bien, de recourir à l'outil caméra pour filmer ces rituels. Et là, en feu de ça, je vous le dis, c'est en 94. Donc il faut bien voir une chronologie, c'est qu'en 94, il n'y avait pas encore le foisonnement des outils vidéo, Internet. Et donc j'étais un peu précurseur à Zanzibar à ce moment-là, en arrivant avec ma caméra. Je me suis inséré, j'ai fait mon premier film comme ça. Et je me suis rendu compte que les gens étaient très captés de ce que je faisais. Et que tout de suite, eux-mêmes se sont mis à prendre des caméras de toutes sortes pour filmer des mariages. Et ils ont fait comme moi, ils ont filmé leur cérémonie. Ce qui fait qu'en 2 ou 3 ans, il y a eu toute une série de cassettes vidéo qu'on trouvait sur le marché, qui étaient les cérémonies que j'avais filmées avant. Bon, bien sûr, c'était de moins bonne qualité, c'était en VHS, etc. Mais il y a eu un effet d'entraînement qui fait que cette introduction d'un outil du chercheur a fait que la société a bougé d'un seul coup. Elle aurait bougé de toute façon, hein, que je sois venu ou pas, puisque ces caméras, elles allaient arriver par le commerce de toutes sortes de régions. Et c'est la période aussi où, à ce moment-là, le multipartisme s'est installé peu à peu dans différents pays africains, et notamment en Tanzanie et à Zanzibar, qui s'est bien vu obligé d'attribuer le pluripartisme à la population qui le réclamait. Donc là, on rentre à nouveau dans le mouvement. Il y a un coup d'accélération lié à toute une série d'événements politiques, de contexte international, mais des accélérations qui touchent la société et qui ont forcément une répercussion sur le travail du chercheur, qui doit s'adapter à ces modifications, parce qu'à partir du moment où j'avais filmé, je me disais l'année prochaine je reviens, j'avais pas filmé certains plans, il manquait des plans, j'ai dit je reviendrai dans un an, dans 2 ans, je continuerai, mais quand je suis revenu c'était plus pareil. Ils étaient 15 avec une caméra, ils les avaient toujours dans le champ, donc il fallait que je m'adapte à cette situation. Mais alors là justement, ce qu'il faut faire, c'est que nous, notre métier, c'est de rendre compte de la société telle qu'elle est, et telle qu'elle change, telle qu'elle évolue. Donc eh bien, il faut les laisser dans le champ, puisque c'est cette évolution. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on ne fait pas, on ne rend pas par des images quelque chose qui est un rituel immuable, qui ne bouge pas. C'est pour ça que je dis à mes étudiants, si vous utilisez la caméra, vous prenez tout, tous vos plans la même année, ou lors du même terrain, et vous ne revenez pas faire un montage à partir de terrains différents, parce que vous allez mettre ensemble des choses qui ne doivent plus être ensemble. Car il s'est produit quelque chose entre-temps. Et surtout, c'est très vrai maintenant avec ces accélérations technologiques qui font que eh bien, tout évolue très vite. Autre changement, j'ai poursuivi mes confréries, vous pouvez voir en diaspora, je suis allé aux Comores. Et là, j'ai retrouvé à la Grande Comore, un pays dans une situation catastrophique, assez lamentable, avec des coups d'État successifs, l'héritage des mercenaires français, et simplement les confréries se maintenaient, continuaient leur vie, leur rituel, se réunissaient plusieurs fois par semaine. Et là aussi, donc, j'ai filmé et j'ai retrouvé ce que j'ai connu à Zanzibar, lors de mon premier terrain, de mon premier tournage à Zanzibar, parmi la confrérie Chazilia. Donc là, j'ai recommencé un peu ce que j'avais fait à Zanzibar, j'ai tourné, j'ai produit des films sur des rituels, mais alors, là, il y a eu encore un coup d'accélération. C'est que tout ça, ça vient après les années 73. Hein. 73, c'est la guerre du Kippour. C'est le moment où les pays arabes récupèrent leur richesse pétrolière et créent des sociétés où ils accumulent des capitaux. Et ces capitaux, bien sûr, ils vont les investir, ils vont les utiliser pour leur pays, etc. Mais aussi, ils vont alimenter, au niveau international, les réseaux, ce qu'on appelle islamistes aujourd'hui. En tout cas, ils ont commencé à faire des écoles, ils ont donné de l'argent pour construire des mosquées. Et à ce moment-là, se mettait déjà en place un nouveau contexte. Ce qui fait que, très vite, aux Comores, une fois, je tournais dans une mosquée pour un anniversaire, le centenaire de la mort du fondateur d'une confrérie. J'avais fait une conférence à la mosquée, après je tournais, et comme je tournais, je passais à l'extérieur pour filmer avec des angles différents, et il y avait un attroupement de jeunes dehors qui ont commencé à crier, l'infidèle hors des mosquées, et la tension a monté, et j'ai senti que c'était très mal parti, et que le grand moufti était dans la mosquée, qui faisait un discours, et on est venu me chercher, on me dit « rentre dans la mosquée avec nous », je dis « non, je ne joue pas ce jeu-là, s'ils ne veulent pas que je parle, je m'en vais ». Parce qu'ils utilisent ma présence pour créer des incidents entre vous, parce qu'il y avait une élection présidentielle qui était prévue 2 ou 3 mois après. Donc j'ai senti que j'étais instrumentalisé, mais c'est ces groupes islamiques qui commençaient à arriver, qui, par l'intermédiaire de fondations saoudiennes, qui s'appelait le Al-Haramein, qui est sur la liste maintenant des organisations interdites, qui finançaient tous ces groupes de jeunes. Et je suis rentré à l'hôtel, j'ai mis la radio, et j'ai entendu le grand moufti qui en direct sur la radio en disant les jeunes drogués, etc., nous déshonorent. Enfin, il a fait un discours sur les drogués, mais jamais il a donné les éléments qui étaient ceux de l'évolution que vivaient les gens à ce moment-là, c'est-à-dire la progression d'un certain type d'islam politique nouveau, qui fait que là, il y avait une accélération. Il y avait une accélération très forte, ce qui fait que le travail de terrain change, la relation qu'on a avec les gens change, et on doit s'adapter à ce contexte-là en permanence. Donc tout ça pour dire que finalement, les accélérations, il y en a souvent, il y a des accalmies, il y a des ralentissements, mais on est obligé nous-mêmes, toujours sur le terrain, eh bien, de suivre un certain mouvement en fonction, bien sûr, pour une part, d'un ressenti. Alors, bon, voilà cette présentation que je veux faire sur mon parcours, qui permet déjà de voir que sur un peu plus de 30 ans quand même, que je travaille sur l'Afrique orientale, dans l'océan Indien, avec un jardin secret en Syrie et au Liban, parce que je n'ai jamais rien écrit sur ces pays-là, mais j'y allais pratiquement tous les ans, et je les connais très bien, ça me permet justement de traduire ce que je vois ailleurs à partir de ces expériences-là. En tout cas, ceci me permet de voir en quoi ces accélérations produisent des choses qui ont des effets importants sur les sociétés, et qu'il faut regarder ce changement continuel pour vraiment rendre compte de ces sociétés qu'on étudie dans le cadre de ce qu'on appelle la globalisation. Alors maintenant, pour revenir au sujet du temps, après cette mise en situation, en quelque sorte, qui me permet de me présenter et de me situer dans un contexte complexe, je ferai un bref commentaire sur l'expérimentation du temps que chacun d'entre nous peut avoir. La notion du temps repose sur beaucoup d'ambiguïtés, en tout cas sur du ressenti, et là c'est important cet élément-là. On peut dire que cette expérimentation existentielle est fondée sur l'inaccessibilité du temps dans toute son étendue, si ce mot « étendue » a un sens dès qu'on parle du temps justement. Dans la mesure où ou le présent, l'observer immédiat, c'est-à-dire dès qu'il est transcrit, dès qu'il est noté, appartient déjà au passé et il bascule dans l'histoire. Bon, c'est un peu un lieu commun. Le moment qu'on vit, il est déjà dans l'histoire parce qu'on passe au moment qui succède. Et donc, cette façon de concevoir le temps montre qu'il est difficile à saisir, sinon, justement, parce que c'est un fait du passé. Alors, aussi, parler d'accélération, c'est poser aussi la question de référence permettant de définir, ou en tout cas, de mesurer cette durée, ce temps. Il serait probablement instructif de nous tourner vers les mathématiciens, ceux qui tentent de penser cette immatérialité vécue, le temps, par le filtre, par le masque intellectuel de la relativité. L'accélération relève, en effet, d'une perception relative que nous avons de notre existence, à un moment donné, mais toujours nécessairement par référence à un passé plus ou moins lointain. De fait, de façon analogique, la durée, le temps sont souvent abordés sous l'angle de l'espace, de l'éloignement et de la proximité, du devant soi et du derrière soi. Cette remarque n'est pas sans effet dans la mesure où, pour l'anthropologue, l'idée de distance épistémologique, de recul, est importante dans toute recherche traitant des humains et de leurs organisations sociales, religieuses, politiques et culturelles. Alors, maintenant je voudrais aborder une sorte d'archéologie, en quelque sorte, des relations temps, terrain de l'anthropologue, terrain du chercheur et distance. Ce passage du témoignage de la différence à l'inspiration encyclopédique. En effet, la recherche du lointain, l'éclairage indirect qu'il permet de porter sur nous-mêmes, implique l'expérience physique du voyage avec un investissement en temps, celui du voyage au long cours. Ce temps passé à s'éloigner donne déjà une consistance aux observations de l'ailleurs qui viennent nourrir les imaginaires occidentaux et les réflexions des intellectuels d'hier et d'aujourd'hui. S'installer dans l'éloignement, perçu comme exotique, c'est déjà prendre une distance avec soi-même. C'est accepter que la différence lointaine puisse influer sur ce que nous sommes comme un révélateur du caché. Ainsi, les récits de voyage remplissent les bibliothèques des puissants et des penseurs des siècles passés. L'accumulation de ces récits, dans toute leur diversité, façonne un corpus nécessaire à l'exercice de l'intelligence occidentale. Nous arrivons là à un moment où, par la matérialité du livre et du manuscrit disponible à portée de main, le lointain, le passé et le proche participent d'une même connaissance. L'idée de l'encyclopédie peut être comprise comme un développement du concept de la bibliothèque. Il s'agit de réunir les différences naturelles et humaines ainsi que les temps écoulés dans la perspective que le savoir va s'enrichir de ce corpus pour le progrès de l'humanité dans son ensemble. Finalement, ce qui est réalisé ainsi, c'est une certaine condensation du temps et de l'espace, le temps est en suspension dans l'encyclopédie. Il est comme arrêté pour que la pensée s'exerce sur la matière qu'elle constitue, cette encyclopédie. Je crois que c'est important de voir là, effectivement, cette constitution d'une référence monumentale dans l'encyclopédie et la bibliothèque, qui est une référence monumentale qui est en devenir permanent, c'est-à-dire qu'elle est toujours là pour s'enrichir avec les nouveaux apports des érudits, des voyageurs, etc. Rapidement, le voyage n'est plus seulement compris comme une exploration géographique, celle des rivages, illustrée par les portulans. Le voyage est perçu comme une traversée des âges de l'humanité. Si Dante nous fait parcourir les différents étages de l'enfer pour nous projeter de façon réflexive dans notre devenir possible, le voyageur érudit, lui, aborde des institutions sociales exotiques, des sociétés primitives, il rencontre le sauvage, auquel on attribue le rôle d'un personnage philosophique, déjà mis en œuvre par Montaigne et Montesquieu, et qui deviendra enjeu de controverse. Alors c'est intéressant de remarquer, par exemple, la controverse qu'il y a pu avoir au siècle des Lumières et juste après, entre Rousseau et Volney. Volney, qui était un angevin, qui a voyagé, qui a joué un rôle important au moment de la Révolution française dans des associations, dans des groupes d'intellectuels de l'époque, avait rédigé son voyage en Égypte et en Syrie, qui a été publié en 1787. Il avait aussi conseillé Bonaparte avant qu'il devienne Napoléon, au moment où il était en disgrâce, en lui disant de ne pas partir rejoindre les Turcs comme général de l'armée turque. Donc il y a tout, c'est un personnage assez intéressant, mais il y a une controverse entre lui et Rousseau, parce qu'il dit qu'est-ce que l'homme sauvage dont parle Rousseau, qui n'a vécu que dans la forêt de Montmorency. Donc on voit tout de suite ce débat qu'il pouvait y avoir à l'époque entre des penseurs importants, qui travaillaient surtout en cabinet, et puis des voyageurs qui rapportaient des matériaux, qui apportaient aussi une réflexion avec un certain terrain à l'arrière. Donc il y avait une autre vision de l'humanité qui soit moins idéale, qui soit plus en rapport avec la relation conflictuelle qu'ils peuvent avoir sur le terrain avec les gens. Alors il est intéressant de remarquer à ce niveau que le mouvement encyclopédique à l'époque des Lumières se développe dans un contexte économique, social et politique qui devient rapidement révolutionnaire. Et là justement on va retoucher cette question de l'accélération, où les cadres politiques et sociaux explosent. On pourrait dire que le mouvement encyclopédique et ses collections relativement figées, juxtaposées, participent paradoxalement à une accélération d'un temps dramatique, celui de la Révolution. Alors, certains voient d'ailleurs cette période-là comme celle de la naissance de l'anthropologie. Lévi-Strauss, dans l'Anthropologie structurale 2, paru en 1976, considère Rousseau comme l'un des fondateurs de l'anthropologie. D'autres vont chercher Voltaire, ou Buffon, ou Diderot. Bon, chacun va trouver son ancêtre dans cette période-là, enfin, plus ou moins. Mais ceci dit, à la même période, s'est développée, juste après ce siècle des Lumières, la Société des observateurs de l'homme, qui a existé, qui a été créée en 1799, qui a existé jusqu'en 1805, donc sous Napoléon, et qui prolonge en quelque sorte ces grands intellectuels du siècle des Lumières, mais avec toute une série de critiques qu'on retrouve chez Volney, justement. Et on retrouvera dans cette Société des observateurs de l'homme Volney, Jussieu, Cuvier, Bougainville, Cabanis, qui était médecin, ouvra des linguistes, donc des gens assez divers dans les disciplines auxquelles ils étaient attachés, mais qui vont avoir un programme, en quelque sorte, pour développer la connaissance, et notamment un programme qu'ils appelleront d'anthropologie comparée, qui proposera d'étendre et de multiplier les observations à la fois sur les anciens peuples, c'est-à-dire ceux de l'Antiquité, pour comprendre l'humanité, justement, mais aussi sur ces « sauvages », entre guillemets, et sur les peuples indigents, c'est-à-dire les sourds et muets, par exemple. Donc on voit bien qu'on met l'Antiquité, le sauvage, et... Non, mais il faut replacer tout dans l'époque. C'est intéressant de voir comment la connaissance s'est formée, comment les théories se sont formées à des moments où on utilisait des termes, effectivement, qui choqueraient aujourd'hui. Mais je reprends ceux qui sont ceux de l'époque, et... voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait l'idée derrière de créer un musée spécial. Ce musée spécial pourrait être en quelque sorte ce qui est devenu plus tard le musée de l'homme. Donc on est là justement dans une dynamique particulière qui est issue justement de cette encyclopédie, mais de façon critique. Alors certains ont reproché plus tard que l'homme était réduit à la condition de plante ou de caillou du musée d'histoire naturelle, ce qui n'est pas forcément faux dans certains cabinets de curiosité. En tout cas, l'encyclopédie ajoute une méthode qui se veut exhaustive. Il s'agit de réduire le monde présent et passé en un monument de savoir universel. Il est donc naturel que, par la suite, l'ethnographie naissante, dans la logique de la collection des choses humaines, que cette ethnographie accompagne l'expansion coloniale, mais aussi missionnaire, afin d'enrichir pour le meilleur et le pire c'est les zoos humains, parler, il y a eu un film de fait là-dessus, donc d'enrichir des collections qui s'imposent comme des musées d'histoire naturelle avant de se diversifier en musée de l'homme. Alors, maintenant je passe à, je ne sais pas trop le temps, mais, ça s'est éteint ça, j'ai en avoir besoin.
Alors,
ouais.
Ça y est, c'est bon.
Voilà. Alors maintenant je vais passer à un autre niveau de ma présentation, qui est lié à l'intérêt que j'ai pour l'anthropologie visuelle, donc par l'usage de la caméra sur mes terrains de recherche, et je vais essayer de vous donner quelques éléments justement sur ces modulations du temps, sur ces accélérations qui sont liées à la fois à l'introduction d'un outil, la caméra, mais aussi à la perception de ce qui est produit par la caméra et à la récupération de cet outil lui-même par d'autres gens que les chercheurs. Alors, ce n'est pas un hasard si la fin du 19e siècle voit l'invention de la caméra, du cinéma justement, et l'invention en quelque sorte de l'ethnologie de terrain. C'est à peu près concomitant. Je vous renvoie à l'ouvrage de Marc-Henri Piau sur anthropologie et cinéma qui détaille bien ça de façon très argumentée. Effectivement, la pratique du terrain des premiers chercheurs, anthropologues, ethnologues, c'est la fin du 19e siècle. Bon, il y a Lewis Morgan qui a fait en 1851 un théâtre chez les Iroquois en Amérique du Nord. Frank Boas, lui chez les Inuits au nord du continent indien, américain. Donc on voit là se mettre en place une tradition de chercheurs de terrain qui va confronter son existence à celle d'autres gens et essayer d'en tirer une matière pour réfléchir, alors soit selon les époques sur un certain évolutionnisme, sur un certain structuralisme, etc. Mais en tout cas, la pratique du terrain est devenue une sorte de passage obligé. Alors, il se trouve qu'à la même période, Étienne Jules Marais invente le fusil photographique en 1882. Donc on voit bien là tout ce qui met... Alors là, ça va très vite justement. Là, il y a une accélération. C'est qu'à la fin du 19e siècle, les techniques qui conduisent au cinéma vont évoluer d'année en année. Il y a le fusil photographique en 1882, il y a le kinétographe et le kinétoscope en 1891 avec Edison et William Dixon. Il va y avoir par la suite les frères Lumière, etc. Donc tout va très vite. Et ces nouvelles techniques vont être mises en œuvre justement par des chercheurs. Ce qui fait qu'en 1894, on aura par exemple William Dixon qui va faire un film de 30 secondes, bon, c'est avec les moyens de l'époque, sur les danses des esprits Sioux et un conseil de guerre indien. Donc voilà, donc les premières choses qu'on collecte. Et là, on est toujours dans la dynamique du cabinet de curiosité, hein, en quelque sorte, de l'encyclopédie. C'est qu'on documente, pas seulement avec l'encyclopédie, avec ses belles planches, mais là, avec cette nouvelle technique, le cinéma, qui est introduite à ce moment-là. On a des choses plus contestables, mais qui sont de la même époque. Un an après, Félix-Louis Regnault, qui était un anatomiste, lui s'intéresse, à travers l'exposition ethnographique du Champ de Mars, à une femme Wolof du Sénégal qui fabrique la poterie. Donc on a des gens parqués dans une exposition internationale, la caméra se pose, film, et on a une femme Wolof qui fabrique la poterie. C'est le titre de ce court film. Et puis on a plus loin trois nègres au moment où ils s'accroupissent. Ça c'est un document aussi, parce qu'ils s'accroupissent d'une façon différente que nous avons, puisque nous on s'assied sur des chaises, eux ils s'accroupissent. Donc il y a toute une série de documents qui existent dans des états assez catastrophiques aujourd'hui, mais enfin qui existent, qu'on peut visionner. Mais on voit bien qu'il a aussi toujours cette obsession inventoriale qui est liée finalement, en quelque sorte, encore à cette idée de l'encyclopédie. Alors, cette obsession inventoriale, elle va se développer de façon assez positive, je dirais, à travers Albert Kahn, ce financier, donc, qui a mis à la disposition de la communauté des moyens pour qu'on fasse une sorte de mémoire de l'humanité à travers les photos et les films. Donc ça, c'est au tout début du XXe siècle. On voit bien que c'est allé très vite. Et que Albert Kahn, en dialogue avec Jean Brune, qui était un géographe, qui a été par la suite au Collège de France, eh bien, vont créer les archives de la planète. Donc on est toujours dans cette collection-là. Il va donner des bourses à partir de 1898 et des bourses autour du monde où les gens pourront partir 15 mois autour du monde et rapporter toutes sortes de données, photos, dessins, films, qui seront des archives utiles pour tout le monde. Alors, en fait, si vous allez au musée Albert Kahn, là, à Boulogne, vous pourrez voir un certain nombre de ces documents, soit dans les expositions temporaires, soit dans l'automate qui nous présente ces films. Il y a des choses absolument étonnantes sur Téhéran au tout début du XXe siècle. Enfin, il y a vraiment des choses passionnantes à voir. Il y a eu 4000 plaques stéréoscopiques, environ 72 000 photos en autochrome sur verre qui ont été prises dans 55 pays, plus tous les films. Donc c'était quand même une initiative étonnante qui s'est achevée, bien sûr, avec la, la grande crise de 1929, au moment où Albert Kahn a fait faillite, où, où il a eu de grosses difficultés. Alors, maintenant du côté des films, en débutant avec le XXe siècle, pour montrer justement ces effets du temps, je voudrais vous présenter un extrait, il est là-bas, d'un film d'Edward Curtis. Edward Curtis, c'était un photographe américain qui a parcouru toute l'Amérique du Nord pour produire des photos sur toutes les communautés indiennes, amérindiennes d'Amérique du Nord. Et il a été financé par un entrepreneur qui travaillait dans les chemins de fer, un financier. Et cet entrepreneur lui a permis, donc, de, pendant pas mal d'années, de circuler dans toute l'Amérique du Nord. Et il a pris des photos des Indiens. Alors, ça a été édité par la suite en très grand livre de luxe, avec toutes ces photos en plusieurs volumes, financées justement par ce même financier. Et Curtis, ce qui est intéressant là, c'est que on était au moment où les Amérindiens disparaissaient physiquement, parce qu'il y a eu la conquête de l'Ouest, parce qu'il y a eu l'alcool, il y a eu des ravages de ces populations, et on était juste... en réaction à cette disparition des Amérindiens, dans une volonté de conserver, là encore, de garder témoignage de ce qu'était la culture amérindienne. Donc Curtis s'est un peu donc, dévoué pour garder ses photos. Mais on voit bien là qu'on est aussi dans une époque où on figeait tout. Et on le figeait de façon assez artificielle. C'est-à-dire que on verra sur plusieurs photos prises à 300 ou à 400 km qu'un Indien portera le même foulard que celui qui vivait au sud des États-Unis. Donc il avait des ustensiles qu'il leur donnait, qu'il leur prêtait pour poser sur des photos, qu'on retrouve sur plusieurs photos. Donc il y a des mises en scène photographiques qui font que l'Indien idéal et l'Indien type, finalement, il est construit par le photographe. Et c'est là quelque chose d'intéressant aussi. Et on va retrouver ça dans une autre œuvre qui est la sienne. C'est un film, il est passé au film justement, en 1914, juste avant la Grande Guerre. Il a fait un film qui s'appelait « Au pays des coupeurs de tête » et qui a été rebaptisé par la suite « Au pays des canaux de guerre ». Ce film était un film muet qu'il a tourné chez les Indiens Guaquiotul, au nord-ouest des États-Unis. Sont des Indiens qu'on connaît bien, puisqu'ils ont des sculptures monumentales. On avait un totem au musée de l'Homme qui trônait, et voilà. Et, mais c'était peint avec de belles couleurs. Et si vous allez au Canada, à côté de Toronto, à Hull, il y a un musée de l'Indien, où il y a des très belles choses de ces communautés indiennes. Et vous trouverez ce film et d'autres. Et donc, il a fait un film où là, il construit ce qui est censé être la vie des Guaquiotul. Donc, il donne à voir ce qu'est la culture Guaquiotul. Mais c'est un film de fiction, c'est-à-dire qu'il a fait jouer les Indiens eux-mêmes dans ce film-là. Il les a habillés comme ils étaient habillés 30 ans avant. Il a reconstitué des coutumes qui étaient déjà en train de disparaître. Parce que ces Indiens-là, ils étaient alcooliques. La société indienne était en pleine décomposition. Et donc il a fait un film où il y a une romance. Il y a un méchant sorcier qui veut prendre la jeune fille. Mais à travers cette romance-là, cette histoire-là, il nous donne à voir quelques éléments de la culture Guaquiotul. Alors, je vais essayer de positionner ça au bon endroit. C'est à combien c'est à... Bon, moi, je crois qu'on peut le faire là. Voilà. Il y en a, je vous ai mis 4 minutes. On peut arrêter avant, si vous voulez. Alors, c'est un film muet, je vous expliquerai pour le son après. Donc 1914. Ce que vous voyez, donc, c'était un film muet. Et justement, les effets du temps font que c'était en 1914, il y a eu la guerre, donc ce film était assez vite oublié. Et c'est pas mal d'années plus tard qu'on a retrouvé dans un musée nord-américain la pellicule de ce film. Et les chercheurs de ce musée l'ont présenté à des Indiens Kwakiutl dans les années 70. Et ces Indiens se sont mis à chanter lorsqu'ils voyaient. Et ça veut dire qu'il y avait quand même une mémoire, ça veut dire que ce qui est fait dans la fiction reprenait des faits culturels réels, qui correspondaient à quelque chose. Donc, eh bien, ils ont fait une bande sonore en faisant la bande-son avec ces Indiens Kwakiutl, donc 60 ans plus tard. Donc là, l'accélération du temps elle n'existe plus, mais c'est une reconstruction. Hein. C'était une première construction, une reconstruction de la vie des Kwakiutl déjà en 1914, et ça l'est à nouveau en 1972 lorsqu'on a ajouté de la bande-son. Et le film que nous avons, le bruitage, tout ça, c'est 72. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est l'effet retour dû à l'outil caméra et ces témoignages qu'on apporte, qui est repris en compte par les Kwakiutl eux-mêmes, et leurs paroles, leurs chants, leurs traditions revivent à partir d'un fossile en quelque sorte. Et c'est là où c'est étonnant, mais il y a quelque chose qui s'est produit à ce moment-là et qui a été instrumentalisé par les associations amérindiennes qui revendiquent leur part dans l'Amérique d'aujourd'hui. Bon, ça c'est un exemple. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Là, cette fois-ci, j'ai sur l'ordinateur. C'est le moment où la société Citroën aussi voulait montrer que face à Renault, elle produisait un matériel qui pouvait affronter la traversée de toute l'Afrique. Donc il y a eu l'organisation de la croisière noire. Donc c'était en 1924. C'était en 1924, donc c'est 10 ans après. Pardon, je me dis 20 ans, mais c'est 10 ans après. Donc cette croisière noire, elle va se dérouler d'Alger jusqu'à Madagascar. En passant, alors arrivé à Kampala, ils vont se diviser en quatre. Certains vont passer par Mombasa, d'autres par Dar es Salaam, d'autres par le Cap, d'autres par Mozambique pour rejoindre Madagascar. Mais tout ça va se faire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que étaient associés à cette croisière noire de Citroën des chercheurs, des gens de différentes disciplines qui devaient chacun rapporter, c'est un peu l'expédition d'Égypte de Citroën qui devait rapporter justement des choses pour nourrir les musées, l'encyclopédie. Alors, attendez, je vous ai prévu. Bon, je vais vous faire traverser du Centrafrique au Congo. Non, on va rester du côté centrafricain si j'arrive à trouver.
Les intermittentes rendent leur construction aléatoire. Souvent, une situation critique n'est rétablie que grâce à la présence d'esprit et au courage des mécanismes.
Donc, bien sûr, on fait la promotion du matériel de Citroën, mais après, on donne des éléments des sociétés africaines avec le regard de l'époque. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est Léon Poirier qui a donné les images, avec Georges Ostech. C'est important de savoir. Et donc là, on a, à travers cette traversée, des instantanés, en quelque sorte, de ce que pouvaient être les sociétés africaines en 1924. Voilà, c'est ça. À partir de là, je voulais vous montrer. Donc là, vous avez un rituel d'initiation qui est du côté centrafricain, avant qu'ils aillent au Congo belge.
Aujourd'hui, dans la société des adultes, ce passage à l'âge d'homme s'accompagne d'un rituel initiatique, la grande.
Alors, bon, voilà, je ne vais pas trop tarder là-dessus, mais je vous donne quand même quelques éléments pour vous accrocher. Ça accroche beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que ces rites de passage à l'âge d'homme, ils ont souvent été interdits en Afrique par les missionnaires, à cette époque-là, à la même époque. Et ça serait intéressant, on a retrouvé aux archives du film un film réalisé par un administrateur colonial français, un peu plus tard, qui, face à la disparition de ces rituels de passage, a demandé à une population du centre du Cameroun, un peu au nord de Yaoundé, de rejouer leur rituel d'initiation de, un peu semblable à celui-ci, comme ils le faisaient autrefois, malgré l'interdiction des missionnaires. Mais là, il y avait le poids de l'administrateur qui dit, cette année, vous allez le faire comme le faisaient vos ancêtres ou vos parents il y a 20 ans. Donc il a filmé ça, il donne le rituel d'initiation de cette population camerounaise, filmé, reconstitué, par la volonté politique de l'administrateur, malgré les missionnaires. Donc les gens rejouent ce rituel d'initiation qui n'aura plus lieu après. Il est joué uniquement pour les besoins du film, et c'est quand même une donnée ethnographique intéressante. Le tout, c'est de la remettre en contexte, et de voir justement qu'on essaie de figer quelque chose, de garder une mémoire de quelque chose, alors que le temps a déjà bien avancé, que la colonisation est là, et que toutes les relations sociales en Afrique sont en train de changer. Alors, le temps. Si j'ai d'autres choses, je vais savoir ce que j'ai mis, ce que j'ai... D'accord. Alors, bon, je vais peut-être enchaîner là-dessus. Je vais vous passer donc ce que j'ai fait moi-même. Parce que, après cette croisière noire de Citroën, il y a eu l'expédition, la mission Dakar-Djibouti, que Marcel Griaul, ce grand ethnologue français, a organisé, où il a associé lui aussi toute une série de gens, Michel Léris, André Scheffner, l'ethnomusicologue, donc des gens qui ont marqué quand même au XXe siècle le savoir académique, il les a associés à cette mission, donc de Dakar à Djibouti, ils ont traversé, et là aussi, il y a eu toute une série de documents filmés, de photos pris sur cette expédition. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était encore dans le voyage lointain, on organisait de façon lourde son voyage, et lorsqu'on partait, on ne prenait pas l'avion à 7 heures pour arriver le lendemain matin, ça durait des jours, on prenait le bateau, et donc il y avait cette durée du voyage qui faisait qu'on était ailleurs, on était vraiment ailleurs, ce qui est très difficile aujourd'hui lorsqu'on fait un terrain. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que Marcel Griaul a produit pas mal d'ouvrages, d'articles sur ces sociétés ouest-africaines où il est allé, notamment sur les Dogons, et que Jean Rouch, le cinéaste et anthropologue français, a été un peu à cette école-là, et que lui-même, par la suite, a produit énormément de films, de documents ethnographiques, et notamment dans cette région. Et là, je vais vous présenter un extrait, justement, d'un film qui s'appelle « Le Dama d'Ambara », un film de 1974. Le Dama d'Ambara, pour vous dire très rapidement, c'est un deuil, c'est-à-dire toutes les personnes qui meurent, elles sont dans la nature pendant 5 ans, jusqu'au jour où on va faire le Dama. Le Dama, c'est une grande cérémonie qu'on convoque pendant 3 jours, et cette cérémonie sert justement à faire que ces morts soient vraiment morts, et qu'ils soient plus dangereux pour les vivants en restant autour des villages en tant que morts. Donc Jean Rouch a eu l'opportunité donc, de filmer ce grand Dama d'Ambara. Ambara, c'était l'un des informateurs de Griaul, donc un personnage qui a donné l'essentiel de ce que Griaul a utilisé dans ses œuvres ethnologiques. Et c'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est que finalement, on fait le deuil d'Ambara et d'autres gens dans cette société-là, ouest-africaine, d'un personnage qui a marqué notre connaissance par l'intermédiaire de Griaul. Et c'est ce que Jean Rouch nous donne à voir.
Satimba, sœur du Sidi, descend. Masque de bois, jeune fille, salut. Sœur posée sur la tête, salut. Ta tête est une jolie tête. Salut Kanaga, salut masque de bois. Versez des larmes pour mon père. L'eau coule goutte à goutte de mes yeux. Le mort est perdu. Oh masque aux beaux vêtements, Dieu t'a apporté de la brousse. Ton travail est bon, bras levés, jambes levées, saute, frappe, vole, oiseau balogou. Vole, oiseau balogou. Vole dans le sillage de ton père.
Je vais arrêter là, malheureusement. Vous avez au Mali aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. C'est cette région-là. Donc là, vous voyez quand même 40 ans ce qui s'est passé. Là, il y a effectivement une accélération qu'on retrouve justement par la production des travaux des uns et des autres. Avec en plus, bon, bien sûr, le style de Rouch, qui fait qu'on n'est plus du tout dans le commentaire de La Croisière Noire, on n'est plus dans les reconstructions de Curtis, on est dans autre chose où Rouch se met entièrement dans le film. D'abord, c'est lui qui a la caméra, mais c'est lui en quelque sorte qui a presque inventé la caméra autonome, c'est-à-dire le son synchrone avec la caméra. Donc ce qu'il enregistre, ce n'est pas un montage du son sur l'image, tout est filmé et enregistré, le son enregistré en même temps, et avec sa technique à lui, sa technique de montage, son écriture, c'est-à-dire un commentaire qui est toujours avec sa voix, où il essaie finalement de donner en français ce qui est la sensibilité des textes dans les langues africaines. Ce n'est pas exactement une traduction, c'est une forme un peu poétique, mais qui reprend un peu la façon de raisonner des communautés africaines en question. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de films de Jean Rouche. Et bon, maintenant, ces films-là, ce sont des documents d'archives sur lesquels nous travaillons, parce que le monde a changé et que... alors, j'avais d'autres choses, justement, j'avais prévu, puisqu'on partait du Mali, de vous parler de l'islamisme, parce que moi, je travaille sur des sociétés musulmanes, mais là, j'ai pas mal d'extraits à vous montrer, donc est-ce que je...
Vous voulez, d'accord. Oui, aussi,
voilà. Alors, bon, moi-même, j'ai filmé des choses en Afrique de l'Est. J'avais prévu de vous montrer un extrait d'un film que j'ai fait à Damas, le sol, en Syrie. Il se trouve qu'en Syrie, j'étais à l'Institut français pour présenter mon film sur Zanzibar, sur un rituel de la Chazilia, une confrérie musulmane, et que dans la salle de l'Institut français, il y avait des membres de la confrérie Kadiria, des Syriens, qui sont venus me voir après. Ils m'ont dit « Mais c'est étonnant, hein, les Africains, ils font comme nous. » Bien sûr, c'est Africain, mais ils font comme nous. Alors je dis « Bah, c'est naturel, vous êtes membre de confrérie, il y a des traditions qui se transmettent. » Il me dit « Mais si tu veux, tu viens nous voir jeudi soir, on fait notre zikr, notre rituel, et si ça t'intéresse, tu filmes. Mais pour ça, tu dois rencontrer le chef. » Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré le chef de la confrérie, et ils m'ont invité, parce qu'ils ont trouvé que mon film sur Zanzibar donnait apparemment un peu de la consistance à ce qu'il faisait, au niveau que je respectais ce qu'il faisait. Et en une soirée, j'ai fait un film que je n'avais pas prévu de faire, que je n'avais pas fait de terrain. Et pour moi, c'est mon meilleur film. Enfin, film d'ethnologue. Et il se trouve que dans ce film, qui a été tourné en 96, que j'ai monté en 97, qui s'appelle Souhait d'extase, bon, il y a des cérémonies où les gens se piquent avec du métal, des choses comme ça. Mais ces gens-là, j'ai fait ce film sans autorisation. C'est-à-dire, c'est la Syrie des années 90. Je n'ai pas demandé l'autorisation. Bon, les services secrets syriens me connaissent depuis longtemps. J'ai habité un an à Damas quand je représentais la compagnie internationale pour l'informatique. Ils ont aussi comme ça sur moi. Mais bon, ils savent que je ne suis pas dangereux. Et ils m'ont laissé faire, en quelque sorte. Et j'ai filmé ça. Et un an après, je suis revenu le présenter aux gens de la confrérie. Et on m'a fait passer un message. La première fois que tu fais un film, tu t'adresses au bureau. Mais on m'a laissé faire. Ça s'est passé de cette façon-là. Mais ces gens-là, ils ont accepté d'être filmés, et aujourd'hui, avec le recul, je vois tout ce qu'il y a de négatif pour eux. C'est-à-dire, dans la progression de l'islamisme, notamment vu par les wahhabites saoudiens, ces choses-là sont condamnables dans l'islam. Donc, une fois que c'est mis sur la pellicule, c'est montré, c'est diffusé, et ça peut les exposer. Alors, tant que la Syrie était plus ou moins stabilisée par un pouvoir autoritaire, etc., bon, il n'y avait pas de représailles, mais dans le contexte d'aujourd'hui, on peut très bien voir des gens qui s'en prennent à ces gens-là, parce qu'ils font des choses qui ne sont pas conformes à une certaine vue de l'islam par certains. Donc là, on voit justement l'accélération du temps, et dans ces sociétés qu'on étudie, cette accélération politique et tout ce qui se passe aujourd'hui modifie beaucoup la donne. Ça modifie d'autant plus que ce qu'on a produit, nous, soit chercheurs, soit cinéastes, comme documents, c'est maintenant produit par les gens eux-mêmes. C'est-à-dire les Indiens du Brésil produisent des films sur leur culture. Ils ne veulent plus qu'on les produise, nous. Les différents groupes religieux se filment continuellement et mettent en ligne des cérémonies qui les concernent. Alors, par exemple, je vais vous montrer chez les chiites, à Mascate, en Oman, dont vous trouverez ce genre de documents sur Internet. Donc, c'est pas spectaculaire. Bon, ce que vous remarquerez à travers ces images, quand vous allez les chercher dans tous les pays, c'est que l'œil de l'anthropologue va s'attacher à voir que bah, ils ont des bonnets blancs brodés, comme aux Comores, comme à Zanzibar, comme à Oman, et que donc la tenue vestimentaire n'est pas celle des Iraniens, par exemple, ni celle des Libanais. Donc il y a des particularités dans le rituel qui marquent quand même la région où ça se passe. Bon, ça, c'est à Oman. Vous irez un peu plus loin, en Norvège. Et là, vous aurez les cérémonies de Ashura. Vous irez après à Hyderabad, en Inde. Et donc là, vous aurez la couleur indienne, avec le noir du Dolchi. Mais vous aurez là aussi, j'ai gardé ça, parce que vous avez le caméraman qui est sur une chaise, qui domine l'assemblée et qui est en train de saisir l'événement. Et aussi, ce que j'ai filmé à la Réunion, mais très vite, hein. Si je l'ai là, j'espère. Je vais tirer au hasard, hein. Je ne sais pas lequel va sortir. Non, ça c'est pas bon, ça c'est des enfants dans la salle avant que ça commence. Non, ça c'est à l'île de la Réunion. C'est à 20 mètres de l'hôtel de la région, hein. C'est juste à côté. Ce sont des citoyens français. Hein. C'est entre l'université et l'hôtel de région. Voilà. Bon, bah, bien sûr, j'ai pas de chance. Je n'ai pas celui que je vous ai trouvé. Ouais, voilà. Bon, voilà, ça, c'est au moment où ils étaient les lumières. Ouais, il y a 38 secondes, ça va. Donc c'est dans la salle, le soir, vous avez à gauche l'imam qui est caché maintenant, qui est un Pakistanais qui paye pour 2 ans, qui va diriger les prières et donner les cours de religion. Et, c'est-à-dire comme c'est une communauté en diaspora, ce sont des Français mais d'origine Gujarati. Enfin, ils viennent du nord-ouest de l'Inde, ils avaient migré au 19e siècle à Madagascar, à Zanzibar, mais ils ont été chassés de Madagascar par les Malgaches. Et ils se sont installés à la Réunion. Donc ils font les cérémonies de Ashura comme tous les autres chiites, mais avec bien sûr. Et alors là, le chanteur, c'est un chiite qui vit en Irlande, qui a été payé pour venir chanter. C'est là pour vous montrer aussi que cette globalisation, elle existe dans ces rituels, non seulement celui sur Internet, mais aussi il y a des mouvements de personnes, et il y a des choses. C'est là où travailler sur son village, sur son terroir, pour quelqu'un comme moi, c'est plus possible. On est dans une autre anthropologie, on est dans la circulation et on est dans les mesures du temps très différentes et effectivement tout va très vite. Alors, pour conclure, je pourrais vous en montrer, j'en ai beaucoup d'autres, mais enfin il faut arrêter. Je vais passer dans un premier temps de l'honnête homme, en quelque sorte, celui qui touchait à tout, au spécialiste. Mais le spécialisme qui doit avoir l'œil sur tout ce qui se passe autour de lui aussi. Parce que ces changements qui se produisent, c'est la théorie du papillon hein, qui bat des ailes en Californie et qui fait changer des choses en Chine. Bon, c'est un peu ça. En fait, on voit que tout va très vite et que cette accélération, elle est liée justement à des choses qu'on ne peut pas percevoir forcément tout de suite, mais qui sont liées à des événements qui se passent ailleurs. Et pour ce qui est des sociétés musulmanes, aujourd'hui, c'est évident, ça va très 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 vite. Alors, en fait, la technologie, elle perfectionne aussi les outils de l'anthropologue. Hein, moi, le passage à la caméra, c'est un changement complet. Elle change mes relations avec les gens aussi. C'est-à-dire que lorsque j'arrive comme ethnologue avec mon petit cahier et puis je prends des notes, dans certaines communautés, je suis là un peu comme un sorcier. Parce que ce que j'écris, je le lis, ça peut être une amulette, ça peut être quelque chose un sort que je jette, quelque chose que j'emporte avec moi. Et curieusement, quand je viens avec la caméra, je suis un professionnel de la télé. Je ne suis plus le chercheur, je ne suis plus le sorcier. C'est ce que je fais, je dois gagner de l'argent avec et ça va aller à la télé. Donc j'ai un statut. Et la caméra me donne un statut, non pas de chercheur, mais de caméraman, et on m'accepte beaucoup plus dans certains milieux avec la caméra que lorsque je suis debout à prendre des notes. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qui modifie les façons de travailler par la présence de l'outil. Alors, il y a aussi, bien sûr, toutes les répercussions éthiques que peut avoir nos évolutions dans nos métiers. Lorsqu'on travaille avec la caméra, je vous l'ai dit tout à l'heure, on saisit des images et selon les images qu'on saisit, ça peut avoir des effets. Alors en plus, ça devient compliqué aujourd'hui parce que Maintenant, il faut cacher des visages, parce que si on n'a pas l'autorisation des gens, on ne devrait plus pouvoir faire des films. Donc ça devient compliqué pour faire certains films. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai filmé, par exemple, une cérémonie soufie à Zanzibar, et j'avais une très bonne relation avec le cher de cette confrérie. Je l'ai interviewé à la terrasse, sur la terrasse de l'hôtel pour qu'il me parle un peu des détails de la cérémonie. Je le filmais. Et après, il m'a dit, mais en parlant, j'ai oublié qu'il y avait la caméra. Il ne faut pas que tu montres ce que j'ai dit là, parce que j'ai dit quelque chose que j'ai fait, mais qui n'est pas conforme. Et si tu montres ça, je vais avoir des problèmes. Donc, je n'ai jamais montré. J'ai respecté le contrat. Mais comme ethnologue, je sais que les règles sont souvent dépassées. Et cet exemple-là me permet de le comprendre. Et qu'elles sont toujours franchies. Que ces règles ne sont jamais rigides. Voilà. Alors, en même temps que les pratiques de terrain se modifient, elles deviennent aussi problématiques pour les chercheurs. C'est-à-dire que les terrains se réduisent. Si vous allez au Mali aujourd'hui, le CNRS et, ou l'IRD ou l'École des hautes études vous interdiront d'y aller tant que la situation n'est pas stabilisée. J'ai envoyé une étudiante en Iran l'été dernier. Le président de l'école a beaucoup hésité avant de signer l'ordre de mission. Elle allait étudier la visite de la tombe du poète Hafez de Shiraz, à Shiraz, et il n'y avait rien de dangereux. Mais comme elle est astucieuse, elle a montré que ce culte du poète, et en même temps un culte national, est un endroit où on fait des divinations, c'est-à-dire on ouvre le recueil, on met son doigt sur les poèmes, et puis à partir de ce qu'on lit, on fait une divination sur parce qu'on aime quelqu'un, parce qu'on a un malheur, n'importe quoi. Et puis, Ahmadinejad, qui était encore en charge de l'Iran, est venu lui aussi pour ses cérémonies, pour essayer de faire que le poète devienne un emblème national et soit récupéré politiquement. Donc, à travers ce culte d'un poète, d'un grand homme de lettres du passé, qui est presque perçu comme un saint, puisque les gens disent parfois la lecture des poèmes de Hafez, c'est comme lire le Coran. Donc, même le politique d'un régime islamique essaie de se greffer là-dessus pour utiliser cette relation particulière que les gens... Alors voilà, donc le terrain se modifie, et avec l'introduction de la caméra, il se modifie encore plus, et on est dans quelque chose qui bouge très vite, dans des accélérations permanentes. En fait, je crois que ça n'a jamais été très calme, ça a toujours bougé, mais comme on a dû passer que des traces assez rudimentaires, on a eu tendance à figer les choses. Alors ce qui est sûr, c'est que cette accélération, c'est uniquement du domaine du perçu. Pour le reste, c'est vécu par les gens en fonction des drames qu'il y a, des révolutions, des choses qui sont immédiatement perceptibles. Voilà.
Merci beaucoup.